Bonjour, Marco, compte à rebours. Depuis le siècle dernier, presque, compte à rebours. Sur Radio CFM, bien sûr. Figurez-vous que je revienne de Paris et j'étais bien content de rentrer chez moi parce que Paris, c'est bruyant. Et qu'est-ce que je découvre de retour de Paris? Ben, parce que ici aussi, c'est bruyant. Je ne sais pas pourquoi, il y a des avions depuis quelques jours qui ne font que faire des acrobaties, des avions de chasse au-dessus de nos têtes. Franchement, il y a un océan immense pour aller faire ça. Je pense qu'on pourrait peut-être se plaindre parce que ce bruit-là dérange fortement. Pas que nous, les humains, mais aussi les animaux et toute la vie. Bref, je râle. Non, à peine. À peine. Parce que j'ai passé du bon temps à Paris. Je suis allé au cinéma. J'ai vu un film qui s'appelle Psychomagie de Alejandro Jodorowsky, peut-être vous le connaissez celui-là. Il est connu, oui, parce qu'il a écrit quand même un certain nombre d'ouvrages. C'est un des fondateurs du théâtre panique dans les années, alors c'était 60-70 avec Arabal. Il a fait des films, hein, tiens, je me rappelle La Montagne Sacrée, et là c'est un film, Psychomagie, où il montre, parce qu'il a mis au point, il explique que la psychanalyse c'est les mots, la psychomagie c'est les actes, et on se soigne, on dépasse des problèmes, eh bien en faisant quelque chose. Ben, par exemple, on a un bègue qui se peint en doré et qui va réciter des poèmes dans la rue. Et ma foi, enfin, il y a tout un processus, bien sûr, mais ma foi, à la fin, il parle. Hein. C'est étonnant, oui, oui, oui. Il y a des gens jaloux qui arrivent à se réconcilier tout simplement en les obligeant à se mettre nus l'un contre l'autre. Ils finissent par s'embrasser et se rendre compte que c'est deux frères, hein, qu'ils n'ont pas de raison de se taper dessus tout le temps. Et oui, Alejandro Jodorowsky s'est toujours intéressé à cette possibilité de dépasser nos limites, nos contraintes, nos névroses même. Et il a écrit pas mal de livres, donc j'ai voulu voir un spectacle, parce qu'il a fait aussi un spectacle avec son fils, hein, un premier rôle qui s'appelle Le Gorille. Peut-être vous connaissez cette histoire, c'est Franz Kafka qui a écrit ce livre assez court, mais qui est fort, qui raconte l'histoire d'un gorille au milieu des hommes, hein, et qui se rend compte petit à petit qu'il n'est pas un homme, et qui cherche à le devenir. Et finalement, il se retrouve comme tous les humains, parce qu'on n'est pas des hommes, hein, on cherche à le devenir. Bon, et je ne l'ai pas vu ce spectacle, il était fini depuis deux jours, malheureusement. C'était Alejandro Jodorowsky qui l'avait mis en scène. Mais alors j'ai acheté un livre pour me consoler, et Conte Panique, Alejandro Jodorowsky, et je me suis dit, tiens, je vais pouvoir en lire quelques-uns à la radio. C'est pour vous que j'ai acheté ça. Et alors, c'est un peu particulier quand même, ces histoires, parce que la plupart des histoires sont courtes, voire même très courtes. C'est-à-dire que, bon, on a juste une idée. Il faudrait, pour en faire une histoire, à la rallonger. Mais là, j'en lis une courte pour commencer, parce que je l'aime bien. C'est Le déclin d'un poète. Son ombre se jeta sur lui, changé en fouet. Les mots, ne voulant pas sortir, accrochés comme des araignées, s'accumulèrent dans sa gorge. Son crâne s'ouvrit à la manière d'un observatoire astronomique et son cerveau s'envola vers le ciel en dépliant ses circonvolutions jusqu'à prendre l'aspect d'un tapis qui se fit barque à vautour. Son sang s'échappa par la plante de ses pieds et il marcha nu en laissant des empreintes rouges. La ville, qui avait dormi 400 ans, se réveilla et se mit à le poursuivre. Il s'enfuit vers les montagnes. Les versants vomirent des maisons. Il traversa des fleuves. De leurs pattes nerveuses, les ponts unirent les rives, ensevelissant l'eau. Il se cacha dans les forêts. Longs cimetières, les avenues pénétrèrent dans le sous-bois. Sa peau glissa tel un vieux manteau et bientôt il la laissa attachée à un arbre flottant au vent, transformé en drapeau. Ainsi, exposé aux intempéries, ses muscles et ses viscères réveillèrent la gourmandise des temps. N'étant plus qu'un paquet d'os, il se dit « Ma situation ne peut être plus triste, je dois reconnaître que quelque chose va mal. » Mais quelques secondes plus tard, il haussa les épaules et s'en fut boire une autre bouteille de vin. Le déclin du poète, donc, et voilà, c'est des petits contes, des petites histoires, quand même globalement très étranges, et j'en ai choisi deux, allez, il faut avancer, parce que sinon on n'aura pas le temps, j'en ai choisi deux, Le chien de Ptosis et Le pas de loi. On y va tout de suite, et en musique. Ptosis se sentit rempli d'orgueil. Et il y avait de quoi. Après de patientes études, il avait découvert ce qu'on appela par la suite le chien de Ptosis. Découvrir quelque chose dans le film sacré Nuit d'amour à Bombay était pratiquement impossible. Oui, je vois que vous ne comprenez pas. Sachez que la population de l'ex-Gopole, unique survivante des guerres préhistoriques, avait éliminé l'imagination, source de tous les maux. Depuis de nombreux millénaires, grâce à des lobotomies généralisées, l'instinct du jeu avait été supprimé, produisant une race de bureaucrates capables de vivre sans avoir la nostalgie de changement ou d'aventure. Bien des années passèrent encore. Et quand le général suprême demanda pourquoi le suicide décimait 95% de la population, on lui expliqua que c'était là une sorte d'équilibre nerveux, joué constituant un aspect essentiel du comportement humain. Le chef ordonna alors de restaurer le ludique. Mais tous les jeux, toutes les œuvres théâtrales, tous les livres, tous les films avaient été effacés, tant de la mémoire collective que de la réalité. De même qu'il était impossible à l'homme préhistorique de raisonner, il était impossible au lex-gopolite de créer quoi que ce soit. L'imagination était perdue à jamais. Ce fut un événement salvateur. Lorsque des cales submergées d'un transatlantique de l'époque barbare, on exhuma un projecteur de cinéma parfaitement conservé. Et le film, Nuit d'amour à Bombay, parlait dans un anglais antique. La seule possibilité de divertissement était dans cette bande de celluloïdes. Le film fut projeté, précédé par une cérémonie militaire et scientifique qui, au bout d'un temps bien déterminé, finit par devenir religieuse. Des centaines de traités furent écrits sur la psychologie et les costumes des acteurs, le maquillage, le décor, les caractéristiques des personnages, la tournure linguistique archaïque, le type de geste. Lorsque tous ces thèmes furent épuisés, on étudia la personnalité de chacun des figurants anonymes. On fit le recensement des objets. On inventoria les couteaux et les fourchettes qui apparaissaient dans la scène du clair de lune. Et chacun reçut un nom de baptême différent. On calcula la taille des vêtements et des chaussures. Chaque fois qu'on répertoriait une chose nouvelle dans ce film, les citoyens se pressaient une nouvelle fois dans le temple optique pour l'observer attentivement. Aujourd'hui, présentation d'un oiseau blanc qui vole dans l'angle supérieur droit. En arrivant au passage de l'oiseau, on arrêtait la pellicule, on prononçait des discours et les prêtres cinéphiles parlaient. Parfois, on enregistrait par le numéro qui lui correspondait une tache sur le celluloïde. Celle-ci était reproduite et ornait le salon principal des hôtels de ville. Puis elle allait grossir les pages de la grande encyclopédie des nuits d'amour à Bombay. On organisait des concours. Seuls pouvaient y participer des individus capables de disserter sur un minimum de 50 000 détails du film. Au bout de tant d'années de recherche, chaque millimètre carré était inscrit et avait donné lieu à des psaumes, des essais et toutes sortes d'exégèses. Cela réduisit le suicide collectif à une quantité plus raisonnable. Ptosis était un citoyen qui avait de grandes ambitions. Il avait décidé de passer à la postérité. Chaque jour, pendant 30 ans, 10 heures durant, il regarda le film. Enfin, il put voir, à travers les fentes d'un panier d'osier qui apparaissait tout au fond d'une scène sur le marché, les mouvements d'un corps opaque. Il parvint à reconstituer sa forme et démontra que c'était celle d'un chien. Il approfondit son étude et catalogua la race canine, un fox terrier caché là par son maître. Et son maître était un figurant qui, comme le démontra Ptosis, était le mendiant, baptisé sous le nom « Apparition de remplissage dans le millimètre 20 sur 606 du marché ». L'orgueil submergea Ptosis. On le décora dans le bunker présidentiel. On lui remit un portrait du général en trois dimensions. Et il reçut l'hommage charnel de centaines de citoyennes. Jusqu'à ce que Kumosis, aussi ambitieux que Ptosis, parvint à démontrer que ce chien, finalement, n'était que l'ombre du figurant appelé le fumeur de marijuana du millimètre 203 sur 15. On effaça Ptosis des traités. On démolit sa statue. Et son nom fut tourné en dérision. De ce fait lamentable, naquit une expression très utilisée par les citoyens pour prévenir les vains efforts. N'allons pas découvrir un chien de Ptosis. Le pas de loi. Grâce à Dieu, je ne suis pas né pauvre. Ma famille m'a appris à mépriser ces hommes du peuple qui ne nous laissent pas déjeuner à la terrasse des cafés du centre sans chercher, leur visage simiesque faisant d'indignes grimaces de tristesse, à ce que nous leur donnions la côtelette qui est dans notre assiette. Mon père, impeccablement vêtu de gris, chemise blanche et cravate discrète, à la décence de toujours garder un portefeuille bien garni et donc un esprit satisfait. Les proportions de son corps proclament sans vaine ostentation la qualité de sa naissance. Sa tête tient exactement 8 fois dans la hauteur de son corps. Ses yeux sont à l'exacte moitié de sa tête. Son côté droit est identique à son côté gauche. Si avec une scie, on le coupait sur la longueur, les deux parties seraient identiques. Le 18 septembre, jour de notre fête nationale, de sa voix ni trop grave ni trop aiguë, mon père m'a dit « Si nous sommes ce que nous sommes et avons ce que nous avons, c'est parce que nous sommes entourés d'un personnel qui sait nous défendre. Je t'amènerai à l'hémicycle du Champ de Mars, voir défiler notre glorieuse armée. » Protégé par l'ombre d'un kiosque, le président se trouvait là, entouré de ses ministres, lui et eux parfaitement symétriques. Les soldats, en blocs compacts, en rangées de 20 de large sur 40 de profondeur, couverts de casques en forme de champignons et de masques de Mickey Mouse, en arrivant devant la tribune, levèrent la jambe à hauteur de nombril, pour ensuite la reposer au sol en donnant d'énergiques coups de talon. Dissimulant un sourire de fierté, toute expression faciale lui étant interdite, mon père murmura « Ne l'oublie jamais, mon fils, ceci est le pas de loi. » « On dirait une pluie de balles, il me fait peur. À quoi leur sert-il ? » À part à faire peur aux pouilleux, il sert à tuer les fourmis. « Mais que leur ont-elles fait, les pauvres ? Eh bien, elles existent sur le chemin. » Pour la première fois, bien, je dois le préciser, que je n'ai rien à voir avec les fourmis. Ma mère, par exemple, chaque fois qu'elle voyait une file de ses petites ouvrières, en général dans la cuisine, prenait le lance-flamme domestique et, retenant sa fureur, murmurait un froid « voleuse » en les transformant en cendres, sans qu'aucune tourmente n'éclate dans mon cœur. Pourtant, là, pour la première fois, circula dans mon sang une douleur étrange, que j'identifiais ensuite comme de la pitié. Lâchant la main bien faite de mon père, aux doigts de longueur régulière et aux ongles montrant une parfaite demi-lune blanche, je me faufilais entre les bottes des carabiniers, sautais les barrières, courus vers la piste et, une fois au milieu, levais les bras vers le bloc des soldats. « Ne levez pas les jambes aussi haut !» Ne punissez pas le sol de cette façon. Pensez aux pauvres fourmis. Avancez sur la pointe des pieds. Évitez-les. Ce sont de petites fourmis chiliennes. Elles sont nos compatriotes. Que pouvaient faire ces pauvres sbires ? Freiner tout d'un coup pour se faire emboutir par le bloc de soldats qui suivait derrière ? Tomber tous comme dans un jeu de qui ? Par ailleurs, le président pouvait-il ordonner à son armée de s'arrêter, acceptant qu'un enfant soit plus important que tous les autres, que toutes les armes? Ils optèrent pour la seule solution possible, m'ignorer. Les coups de leurs souliers, dans leur progression impétueuse, écrasèrent mon corps. Le défilé dura une heure. Lorsque le chef, ses ministres, les 5000 soldats et les nombreux spectateurs s'éloignèrent du parc, je restai sur le chemin de terre changé en une tache rousâtre, plate comme un coup de langue. Mon père, qui de honte s'était caché derrière un tronc d'arbre, me ramassa et m'emporta caché, enroulé à l'intérieur de son parapluie. Et il rentra chez nous, dans le quartier résidentiel, en espérant passer les murailles sans que les gardiens ou leurs chiens ne se rendent compte qu'il était accompagné d'un fils indigne. La tête de ma mère aussi tenait exactement 8 fois dans la hauteur de son corps, de même que son côté droit était identique à son côté gauche. En me voyant étendu sur la table, peu différent d'une nappe, elle dit de sa voix ni trop grave, ni trop aiguë, « Cet enfant a commis une grave imprudence. Il ne faut surtout pas que les voisins l'apprennent. Allons à la chambre froide. » Couché sur des tables de marbre, 100 corps symétriques, parfaitement semblables, attendaient ma décision. Prévoyant l'avenir, grâce à notre fortune, nous avons heureusement acquis une collection complète d'échantillons afin que tu ne te plaignes pas, comme un fils de pouilleux, d'avoir à disparaître à la première destruction, sans que te soit donné l'opportunité de choisir un nouveau corps. Je les examinais un à un. Je les ai mesurés, les observés de loin, de près, par devant, par derrière. Et je me fis le miroir de leur unique expression. J'hésitais. Mes géniteurs commencèrent à prendre froid. Les corps symétriques de mes 4 grands-parents firent irruption dans la chambre froide. Il faut te décider, petit crapaud aplati. Si tu continues ainsi, nous allons attraper une pulmonie. Je choisis mon propre corps dans l'état où il est. Mais c'est impossible, susurra ma mère. C'est impossible, susurra mon père. C'est impossible, susurèrent tous mes grands-parents. Pense, mon fils, que tout le monde va dire que nous n'avons pas les moyens de te donner un corps symétrique, bredouilla mon père tout à fait malgré lui. Si on te donne la possibilité d'avoir un organisme nouveau chaque fois que tu détruis le précédent, en ajoutant à cette obligation le plaisir du libre choix, tu as le devoir moral de mettre cette chance à profit. Ne comprends-tu pas que notre famille se rendrait ridicule si, dans vie sociale, au milieu de nos corps convenables, tu apparaissais comme un hamburger écrasé par un éléphant ? Ma mère s'évanouit. Fouine d'hypocrisie, dis-je alors. Donnez-moi le corps idéal que vous me gardez en réserve. La famille contint un soupir de soulagement. Ils ouvrirent un réfrigérateur de luxe. Enveloppé dans du papier doré se trouvait un corps régulier, avec une tête entrant exactement 8 fois dans sa hauteur, des yeux juste au milieu de la figure et le côté gauche identique au côté droit. Je me dépouillais lentement de mon corps plat et enfilais le nouveau. La famille entière me bénit. Puisse Dieu multiplier l'argent que tu possèdes. Puisses-tu rencontrer l'épouse miroir qui te convient. Merci, répondis-je d'une voix ni trop grave, ni trop aiguë. La vie continue avec son habituelle monotonie. Nous nous levons à la même heure. Mangeons ensemble sans faire de bruit avec la bouche. Nous accumulons les chèques que nous envoient les locataires effrayés. Nous éteignons les lumières à une heure convenable. Et dormons connectés à l'ordinateur onirique qui dissout les cauchemars. Tous se disent heureux. Sauf moi. Constamment résonnent à mes oreilles les souliers du pas de loi. Cachés sous les draps et mordant mon oreiller. J'essaie d'étouffer mes sanglots. Pauvre fourmi ! Pauvre fourmi ! Sacrilège, notre technicienne préférée, a coupé Ravel, hein, que vous avez reconnu, bien sûr. C'était des petites pièces pour piano et violon, je crois, de Ravel. La musique avant, c'était Stéphane Delic. Et les contes, c'était Alejandro Jodorowsky. Vous avez compris que c'est un peu particulier. Il invente des mondes, hein, des mondes autres que le nôtre, mais il ressemble un peu aussi à ce qu'on connaît ici. Enfin, il y en aura d'autres, tiens, parce que vraiment, c'est un régal. Ça vous plaît ? Eh bien, on en racontera d'autres. Pour l'heure, c'est fini quand même, on va pas traîner. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était Marco, Compte à rebours. Ciao. Amio.